France Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans France Culture. Patrimoine, spectacles, visites et initiatives, l'Anjou va vous surprendre par sa richesse. Et nous sommes 6 dans l'émission pour satisfaire votre curiosité. Avec moi aujourd'hui pour animer cette émission, Bénédicte. Bénédicte, bonjour.
Bonjour Marie.
Deux femmes à l'honneur aujourd'hui. En studio avec nous, Marina Bossard, professeure de lettres et d'histoire au lycée Sadi Carnot Jean Bertin à Saumur, et Noëlla Rouget, la déportée qui a fait gracier son bourreau. Une saumuroise résistante, dont le destin tragique et exceptionnel a été le sujet de travail de vos élèves, Marina Bossard. Ils se sont passionnés pour cette femme, humaniste, rescapée des camps de la guerre, mais aussi de la haine. Tant et si bien que cette femme est devenue leur grand-mère virtuelle. Aujourd'hui, vous nous raconterez ses destins croisés. Et c'est parti pour 30 minutes ensemble.
France Culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
Bénédicte et Marina Bossard, vous avez un défi, parler de Noëlla Rouget en moins de 30 minutes.
C'est effectivement une femme incroyable qui m'a tiré les larmes des yeux. Marina Bossard, vous connaissez son histoire par cœur.
Presque.
Vous, presque. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où elle vient ?
Alors, Noëlla est née sur l'île d'Offard à Saumur, un 25 décembre 1919, raison pour laquelle elle s'appelle Noëlla.
Et ensuite ?
Alors, elle a grandi à Saumur et puis sa famille a déménagé. Elle était là à Quimper et elle a fini à Angers où elle est devenue institutrice à la veille de la Seconde Guerre mondiale.
Donc, quand la guerre se déclare, elle habite Angers, elle est institutrice. Qu'est-ce qui va la faire rentrer dans la résistance ?
Alors, il y a une date qui fait la bascule, c'est le 19 juin 1940, quand Angers est occupé par les Allemands. Angers devient la capitale allemande du Grand Ouest, en fait. Il y a entre 6000 et 7000 soldats qui sont dans la ville. Et elle vivra comme une grande souffrance le fait de voir toute cette présence allemande, de voir aussi toutes les files d'attente devant les magasins, et en parallèle de voir des wagons pleins de marchandises partir pour l'Allemagne.
Elle vient de quel milieu ?
Alors, elle vient d'une famille, on va dire, de la petite bourgeoisie, parce qu'ils avaient une bonne à leur service à la maison. Il y avait un piano. Voilà, donc c'est un peu le milieu dans lequel elle a grandi. Et puis surtout, elle a grandi dans une famille catholique qui lui a inculqué les valeurs qui étaient les siennes, les grandes valeurs humanistes qu'elle a véhiculées par la suite.
Bon, donc la guerre est déclarée. Quand elle voit toutes ces files et tous ces Allemands, elle se décide à rentrer dans la résistance. Et là, qu'est-ce qu'elle y fait ?
Alors, elle rentre dans la résistance. C'est Adrien Tigeau qui va la recruter pour un réseau qui s'appelle Honneur et Patrie. Et dans ce réseau de résistance, elle va faire plein de choses. Elle va distribuer des journaux clandestins, elle va distribuer des tracts, elle va reproduire des tracts pour la résistance, elle va être agente de liaison, elle va transporter des valises, parfois dans lesquelles il y a des armes, voilà, plein de choses.
Et cet Adrien ?
Eh bien, cet Adrien deviendra au fur et à mesure, en fait, son fiancé. Au départ, il n'y avait pas du tout de lien amoureux entre eux. Le lien s'est construit au fur et à mesure. Et donc, Adrien partageait les mêmes valeurs que Noëlla. C'était aussi un grand humaniste. C'était quelqu'un qui avait la guerre pour aversion parce que je crois que c'était son père ou son grand-père qui avait vécu la Première Guerre mondiale et qui avait été doublement amputé. Donc, il a vraiment la guerre comme aversion. C'est un humaniste. Il était communiste aussi, mais Noëlla Rouget disait qu'il était pacifiste et humaniste avant d'être communiste.
Avant d'être communiste. Et donc, tous les deux se rencontrent, se fiancent, décident de se marier. Et à ce moment-là...
Aïe. Eh bien, ils sont surveillés, ils se savent surveillés. Et à la date du 7 juin 1943, eh bien, Adrien est arrêté. Et il est arrêté à l'école de Corsé parce qu'il est lui aussi un stite. Et voilà, c'est pareil, c'est toute une histoire, hein, son arrestation, parce qu'il va à l'école en vélo, il voit une voiture qui le suit, il arrive dans la classe et en fait, il dit à ses élèves que ce sera la dernière fois qu'il le voit. Et en fait, il s'enfuit par la fenêtre et il se fait arrêter. Et il se fait arrêter. Il se fait exécuter le 13 décembre 1943.
et Noëlla.
Alors Noëlla, elle se fera arrêter quelques jours après Adrien. Elle se fera arrêter le 23 juin 1943. Elle se fait arrêter chez elle, chez ses parents, à Angers.
Et on sait qui l'arrête ?
Alors c'est Jacques Vasseur qui va l'arrêter. Elle sera conduite à la prison du Pré-Pigeon où elle va rester trois mois et demi, où là elle sera dans une grande solitude où elle sera mise à l'isolement, pas au secret mais à l'isolement, parce qu'elle va communiquer avec ses voisines de cellules en tapant des coups contre les murs. Et donc elles avaient des codes pour faire le A, c'était un coup, le B c'était deux coups, donc vous imaginez une conversation, combien de temps elle pouvait durer. Et puis elle communiquait aussi, sa famille lui envoyait des paquets pour qu'elle puisse avoir de quoi manger, pour qu'elle puisse avoir des livres et pour avoir du linge propre. Et en fait, elle écrivait des lettres clandestines pour éviter la censure. Donc, elle a récupéré une mine de crayons qui avait été cachée dans un radis donné par sa voisine de cellule. Et donc, elle écrivait comme ça sur des petits bouts de papier. Elle mettait les papiers dans les coutures de ses culottes.
Alors, il faut dire qu'à l'époque, hein, quand elles étaient en prison à ce moment-là, elles avaient faim. En fait, elle raconte, Noëlla Rouget, qu'elle a manger, survécu parce que sa famille la soutenait.
Exactement, parce qu'elle a été nourrie par sa famille, tout à fait.
Il n'avait rien à manger, hein, 43 dans les prisons du Grand Pigeon à Angers, là, il n'y avait rien à manger.
Exactement, tout à fait. Donc c'est grâce à sa famille, et puis c'est aussi sa foi, c'est sa foi catholique qui fait aussi qu'elle arrive à tenir face à cette solitude et à cet isolement. Donc et après, le Pré-Pigeon va se renvoyer à Royallieu et elle fera partie du convoi des 27 000 qui partira d'Angers pour aller jusqu'à Ravensbrück.
On peut terminer leur histoire d'amour entre Adrien et Noëlla, qui va se terminer évidemment très mal, mais néanmoins elle revoit Adrien en prison.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ils étaient dans des bâtiments où ils pouvaient se voir par les fenêtres, etc. C'est la seule façon par laquelle ils se sont vus. Et puis après, elle part à Ravensbrück et elle apprendra sa mort à son retour de Ravensbrück.
Et il lui a écrit une lettre extraordinaire.
Il lui a écrit une lettre très émouvante juste avant de mourir. Tout à fait, la lettre est disponible dans une biographie.
Il y a un personnage dont vous avez juste évoqué le nom, qui est quand même très important, c'est Jacques Vasseur. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet homme ?
Oui, alors Jacques Vasseur, il a sensiblement le même âge que Noëlla Rouget et Adrien Tigeau, sauf que du coup, il a eu un parcours diamétralement opposé. Donc lui, il est d'un milieu peut-être un peu plus aisé, puisque son père était cadre à la Banque de France. Et surtout, je pense qu'il a reçu une éducation qui était complètement différente. Il avait une mère assez autoritaire et a priori assez castratrice. Il avait aussi une grand-mère maternelle qui était allemande, ce qui fait qu'il était bilingue, il parlait l'allemand et c'est la raison pour laquelle en fait, il a rapidement été embauché en tant qu'interprète à la Gestapo. Il avait 20 ans et il s'est retrouvé interprète à la Gestapo.
Et c'est lui qui a été chercher Noëlla Rouget chez elle.
Exactement, parce que très rapidement, en fait, il a obtenu la confiance de l'occupant et il n'était plus seulement interprète. Il participait à la traque, il participait aux interrogatoires, il participait aux perquisitions et donc il est allé chercher Noëlla dans la maison des parents de Noëlla. Il y a eu une perquisition et donc Noëlla s'est retrouvée en prison, amenée par Jacques Vasseur.
Et donc Noëlla est en prison, puis elle part à Ravensbrück, elle y passe 2 ans.
Exactement, elle sera libérée le 5 avril 1945.
Notamment avec Geneviève Antonios de Gaulle.
Exactement, Geneviève Antonios de Gaulle est devenue une amie de Noëlla Rouget et ce qui les rapprochait, c'était leur foi. Et tous les dimanches matins, elles priaient ensemble derrière le baraquement. Et la petite histoire, c'est qu'en fait, c'était des prisonnières communistes qui veillaient à ce que personne ne les voit prier, en fait. Il y avait une vraie sororité entre les femmes.
Une vraie solidarité.
Exactement.
Et donc, elle finit, Dieu merci, par sortir des camps. Elle pèse 35 kilos.
32 kilos. 32 kilos. Elle pèse 32 kilos. Elle a failli mourir hein, dans le camp. Elle a été envoyée dans l'antichambre de la mort. Et puis, une infirmière, au bout de quelques jours, a dit « Bon, finalement, vous êtes apte à travailler. » Et en fait, quand elle est libérée, elle fait 32 kilos. Elle a la tuberculose. Et elle a qu'une envie, c'est de rentrer très rapidement sur Angers parce qu'elle se croit mourante. Et en fait, elle veut mourir sur sa terre natale, en fait.
Bon, donc elle rentre à Angers, et là, si on continue son histoire de façon assez rapide, elle repart ensuite Suisse.
Elle part en Suisse pour sa convalescence parce qu'elle est très malade. Donc il y a beaucoup d'anciennes déportées qui ont été accueillies en Suisse pour se refaire une santé. Ça a été un vrai retour à la vie pour elle. Les montagnes, le grand air, la liberté, le retour des activités, elle a repris le piano, etc. Et c'est là qu'elle a rencontré celui qui deviendra son mari par la suite, André Rouget.
Avec qui elle va avoir deux garçons.
Avec qui elle va avoir deux garçons, donc Patrick et François.
Et donc Noëlla continue sa vie de femme, je ne sais pas si elle travaille ou non, mais bref, elle est silencieuse, elle ne parle pas de son expérience.
Non, tout à fait, ça reste très intériorisé, elle est très protégée aussi par son mari, donc du coup elle ne dit rien. Alors elle fait partie de l'ADIR, qui est l'association des déportés et internés de la Résistance, où elle est très active dans cette association. Du coup, il y a un peu une dichotomie entre sa vie de famille, où elle ne dit rien, où elle est un peu timorée, un peu triste, et puis à l'ADIR, où en fait, là, elle s'éveille. Voilà.
Et un jour, elle va se mettre à témoigner.
Exactement. En 1986, elle entend une professeure d'histoire nier l'existence des chambres à gaz. Et donc, elle prend sa plume, elle écrit une lettre ouverte et elle dit ce qu'elle a à dire. Et elle, à partir de là, elle va lutter contre le négationnisme. Et ça va être un peu comme une catharsis pour elle, parce que le fait de parler, eh bien, vont disparaître ces cauchemars récurrents.
Et elle parlera jusqu'à sa mort, jusqu'en 2020. Elle n'arrêtera pas de témoigner.
Quasiment. En fait, entre 1970 et 2015, elle a fait de très nombreux discours lors des commémorations de la libération des camps. Elle a fait des voyages scolaires où elle accompagnait des voyages scolaires à Auschwitz. Elle a fait des émissions, etc. Et voilà, en gros, elle a témoigné toute
sa vie. Donc, Noëlla Rouget d'un côté. Jacques Vasseur, qu'est-ce qui va se passer après la guerre ?
Ah ben Jacques Vasseur, en fait, il va être condamné à mort par contumace parce que il va prendre la fuite et il va se cacher pendant 17 ans chez sa mère. Et il va être arrêté, c'est le fruit du hasard. Les gendarmes allaient régulièrement chez sa mère pour voir si elle avait des nouvelles. Et là, il s'avère que Jacques Vasseur entend du bruit, il dit « Ah ben maman, c'est toi ». Et en fait, il s'avère que c'était les gendarmes et c'est comme ça qu'il s'est fait arrêter. Donc, il y aura un procès en 1965 où au départ, il va nier les faits et puis au final, il va avouer à demi-mot, en tout cas avec beaucoup de désinvolture, il va être condamné à mort.
Et à nouveau, Noëlla Rouget apparaît.
Elle va écrire une lettre pour demander au président du tribunal à ce qu'il ne soit pas condamné à mort. Et une fois la condamnation, elle va écrire aussi au président de la République, Charles de Gaulle, pour lui demander sa grâce, qu'elle obtiendra en 1966.
Ce sont des lettres qu'on peut lire dans la biographie, qui sont extrêmement émouvantes.
Elles sont très, très touchantes.
Et très bien écrites.
Exactement.
Parce que pourquoi elle demande sa grâce ?
Ben parce que Noëlla, elle a vu beaucoup de morts, elle a vu beaucoup de souffrances, et elle dit qu'en fait, c'est pas avec la mort de Jacques Vasseur que ceux qui sont morts vont revivre, qu'ils vont revenir, et que ça effacera toutes les souffrances et toutes les tortures qui ont été subies pendant la Seconde Guerre. C'est une très grande humaniste qui croit profondément aux valeurs humaines, en fait.
Et du coup, la peine est commuée
à perpétuité.
Et là, leur histoire ne s'arrête pas là.
Elle ne se termine pas parce qu'en fait, pendant son incarcération, ils vont correspondre et ils vont se répondre. Et alors, Jacques Vasseur, parfois, va se plaindre de sa condition. Et Noëlla, malgré tout, elle lui dira quand même, moi aussi, j'ai vécu ça. Enfin, voilà. Et Jacques Vasseur va se marier en prison. Et la femme de Jacques Vasseur va écrire à Noëlla pour lui demander d'intervenir pour que sa peine soit réduite. Ce que va faire Noëlla, et donc au final, avec les remises de peine, etc., la peine de Jacques Vasseur sera commuée en 20 ans de prison, il sera libéré.
Il sera libéré, donc il va mourir de sa belle mort en Allemagne parce qu'il a épousé une femme allemande.
Exactement, en 2009.
Sans jamais avoir reconnu ou avoir demandé pardon ?
Non, en fait, il n'y aura eu aucune repentance. Noëlla, si elle lui écrit, c'est parce qu'elle espère cette repentance qui n'arrivera jamais, en fait. Et une fois qu'il a quitté la prison, qu'il sera libéré, il coupe les ponts avec Noëlla et plus jamais elle ne recevra de ses nouvelles.
Est-ce que ça l'a marqué, elle ?
Je ne sais pas si ça l'a marqué. En tout cas, elle l'a fait parce qu'elle croyait aux valeurs humaines, parce qu'elle pense qu'il y a du bon en chaque homme. Donc, elle a essayé, mais bon, elle n'y est pas parvenue.
Alors, vous restez avec nous sur France Culture pour écouter l'incroyable aventure menée par Marina Bossard et ses élèves autour de Noëlla Rouget. On va faire une petite pause musicale avec les Brothers Johnson et The Strawberry Letter 23. Thank you. On est sur Radio Campus Angers, Franche Culture. On reprend avec Bénédicte et notre invitée Marina Bossard.
Marina Bossard, vous êtes professeure de lettres et d'histoire à Saumur. Comment en êtes-vous arrivée à étudier ou faire étudier l'histoire de cette femme extraordinaire à vos élèves ?
C'est le fruit du hasard, en fait. Pendant le premier confinement en 2020, je cherchais une personnalité, une résistante, et je voulais que ce soit une femme et je voulais qu'elle soit locale. Parce que quand on travaille sur des personnes qui viennent du territoire des élèves, c'est plus facile pour obtenir leur adhésion parce qu'ils s'identifient plus facilement. Donc j'ai pris un moteur de recherche bien connu, j'ai tapé résistante, saumuroise, et en fait je suis tout de suite tombée sur Noëlla Rouget, j'ai commencé à lire son histoire et là je me suis dit en fait c'est elle qu'il faut faire découvrir aux élèves.
Comment vous vous êtes pris pour les accrocher ?
En fait, je crois que c'est la personnalité de Noëlla qui fait qu'ils ont été accrochés tout de suite. Parce que moi, j'ai créé ce qui s'appelle Ingeniali. Donc, c'était un parcours en ligne sur un logiciel où, en fait, au fur et à mesure, ils avaient des questions et, en fait, ils découvraient sa vie au fur et à mesure. Et ils ont été tellement intéressés que, du coup, je leur ai proposé d'écrire une lettre à la mairie parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun lieu qui portait son nom, en tout cas dans le département. Qu'à Saumur, il y avait très peu de noms de rue qui portaient le nom d'une femme. J'aurais proposé d'écrire une lettre à la presse pour qu'un article paraisse, qu'il y ait plus de monde qui découvre cette personnalité, et d'écrire un mail aux profs de façon à ce que les profs du lycée connaissent aussi cette personnalité. Ce qui a été fait, et donc on a eu une réponse de la mairie de Saumur, du service voirie, nous expliquant que effectivement, ils ne la connaissaient pas, ils sont renseignés et donc ils l'ont intégrée dans les 10 noms en attente d'une nomination d'un lieu. Suite à la lettre à la presse, le Courrier de l'Ouest a publié un article avec le nom des deux élèves qui avaient écrit cette lettre. Donc voilà, l'histoire est partie comme ça, mais c'est vraiment la personnalité de Noëlla qui a fait. Et moi, pour mettre en valeur le travail des élèves, pour valoriser vraiment le travail des élèves et aussi pour travailler à l'image du lycée, je publie toujours sur le site du lycée les travaux des élèves, et il s'avère que Éric Monnier, qui est le biographe de Noëlla Rouget, fait toujours une veille informationnelle pour voir s'il y a de nouvelles informations sur Noëlla, et donc il est tombé sur le site du lycée avec le petit texte que j'avais fait plus la lettre qu'Alexis avait écrit à la mairie, et donc il a envoyé un mail au lycée que la secrétaire m'a transmis, et là je me suis dit il faut saisir l'opportunité, il faut que je réfléchisse à un nouveau projet avec une autre classe, et en fait c'est comme ça, c'est un peu l'effet boule de neige, et donc j'ai monté un nouveau projet pour l'année suivante avec une autre classe pour travailler sur Noëlla Rouget.
La première classe, c'était une classe de...
C'était une classe de bac pro cuisine.
Qui était en terminale, donc.
Alors, ils étaient en première, parce que donc en terminale, eux, ils se sont occupés, comme la mairie nous a expliqué, qu'il fallait parfois attendre 10 ans avant qu'il y ait une rue qui prenne le nom d'une nouvelle personnalité, parce que soit il faut débaptiser une rue, soit il faut un nouvel endroit. Ouais. Donc je me suis dit, bah, il faut qu'on trouve quelque chose avant qu'ils quittent le lycée au moins. Donc eux, ils ont travaillé à rebaptiser, on avait un espace culturel, donc ils ont travaillé à baptiser l'espace culturel, l'espace Noé Larouget. Et avec ma nouvelle classe, je les ai fait travailler sur la biographie. Donc Noé Larouget, la déportée qui a fait gracier son bourreau, j'ai fait un arpentage de cette biographie.
Ça veut dire quoi ?
Un arpentage, c'est une lecture collaborative. Ça veut dire que chacun avait en responsabilité une partie de l'histoire. Et à partir de là, ils ont créé une exposition qui retrace la vie de Noé Larouget. Donc exposition qui a été mise en valeur à l'espace Jacques Percereau à Saumur, qui a été mise en valeur à la bibliothèque de Leuger, puisque le papa de Noéla était originaire de Leuger, qui a été exposée aussi, donc elle a circulé dans les collèges du côté de Leuger et les enseignants d'histoire l'ont utilisée comme support pédagogique avec leurs élèves. Elle a été exposée aussi à Genève. Voilà, donc c'est une exposition qui a circulé et les élèves ont obtenu le premier prix départemental du concours Raconter l'histoire, organisé par les archives départementales
de Maine-et-Loire. Ils devaient être
vachement contents. Très contents. Hein. Voilà, recevoir un prix, ça fait toujours plaisir. Puis c'est aussi une reconnaissance du travail qui a été fait. Et donc, du coup, à la fin de cette année-là, les terminales, ils ont organisé l'inauguration de l'espace Noé Larouget. Et le même jour, on a fait le vernissage de cette exposition.
Qui était fait par les premières, du coup.
Qui était fait par les premières. Et donc, on a eu de très beaux invités ce jour-là, puisque le recteur s'est déplacé. Nous avons eu les deux députés de Saumur. Et puis Brigitte et Éric Monnier, les biographes, se sont déplacés depuis Genève. Et Patrick et François, les fils de Noéla, se sont déplacés aussi pour l'occasion depuis Genève.
Et donc les élèves ont pu voir et parler avec les biographes. Ils avaient tous intégré complètement l'histoire, parce que la Seconde Guerre mondiale, c'était quand même pas un truc qu'ils connaissaient très bien, ces élèves. Comment vous avez fait ?
Si, parce que c'était au programme de troisième, donc ils avaient quand même des notions. Et le fait de travailler avec la pédagogie de projet, clairement, ça permet aux élèves d'abord d'être acteurs. C'est eux qui ont construit l'exposition.
Concrètement, ça veut dire quoi, la pédagogie de projet ?
En fait, là, le projet, c'était d'organiser le vernissage en amont de faire l'exposition. Donc, on travaille surtout les compétences transversales. Donc, les élèves ont rédigé des discours parce qu'il a fallu faire des discours pour présenter les choses. Donc, ils ont fait un discours au pupitre, au micro, devant l'assemblée de personnes. Il y avait
expression
une centaine de personnes.
Expression orale.
Exactement, tout à fait.
En présentant Larouget, donc ils avaient intégré son histoire, eux.
Exactement. Puis faire l'exposition, ça permet, c'est-à-dire qu'on lit la biographie, on rédige les panneaux. Et puis, Brigitte et Éric ont eu la gentillesse de corriger les panneaux des élèves. Ils ont fait des invitations via le numérique. Ils ont envoyé des courriers à la presse pour que la presse soit là. Enfin, voilà, on a développé plein de choses. C'est-à-dire qu'on travaille différemment. Et au final, ils ont retenu beaucoup plus de choses sur la Seconde Guerre mondiale que si j'avais pu faire un cours magistral.
Et je suppose qu'on n'entend pas une mouche voler pendant vos cours.
C'est pas silencieux, parce que quand on travaille en groupe, en équipe, quand on fait de la pédagogie de projet, ça discute. Mais en fait, ça discute du sujet dont il est question. Donc, et puis, ça permet de développer beaucoup l'autonomie, l'initiative. Enfin, c'est extrêmement riche.
Et vous avez même emmené vos élèves en Suisse ?
Oui, parce que ce 28 avril, jour d'inauguration et de vernissage, donc Brigitte et Eric étaient là. Et Brigitte me dit, écoute, le 13 octobre prochain, il y a un hommage à Noé Larouget à Genève, organisé par le consul de France. Je veux que vous soyez là. Alors je dis, d'accord, mais on est le 28 avril, c'est le 13 octobre, le temps de... d'accord. Et donc, l'année suivante, mes premières arrivent en terminale bac. Mes terminales bac, certains sont restés au lycée en BTS et ma chère. Eh bien, on part avec les 7 ou 8 BTS, les 32 élèves de bac pro commerce, avec deux de mes collègues. On part comme ça à 42, je crois. On prend le bus depuis Saumur, direction... la Suisse. Donc en fait, on a fait un voyage mémoriel dans les panneaux et la Rouget. On est allé à Châteaudet, en Suisse, là où il y avait le chalet de la Goumflou, où elle était en convalescence. On est allé dans ses pas. On a découvert la culture suisse et on a assisté à cette cérémonie commémorative avec la plaque commémorative. Et donc, Noé Larouget est la seule civile dont le nom apparaît sur ce monument aux morts à Genève.
Et qu'est-ce que les élèves en ont retiré ?
Beaucoup de choses, hein. C'est-à-dire que je me souviens, il y en a une, Camille, qui me dit « Madame, moi, quand j'aurai des enfants, je leur parlerai de Noé Larouget. » Ils ont fait des discours à Châteaudet. Il y a eu la projection d'un film qui parlait de Noëlla. Et avant, donc, l'un des élèves, Simon, avait rédigé un discours. Le cinéma était plein. Il a fait un discours comme ça devant tout le monde. Vraiment, ça a permis de développer l'attachement aux valeurs de la République. Ça a permis de développer, je pense, aussi ce sentiment d'engagement. On peut s'engager. Ils ont compris ce qu'était la démocratie participative parce qu'ils ont été acteurs de la démocratie participative. Donc voilà, la pédagogie de projet, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que les notions qui concernent la Seconde Guerre mondiale, à travers le travail sur Noëlla Rouget, bah, ils ont compris. Ils savent aujourd'hui ce que c'est Ravensbrück.
Et pour en terminer, finalement, il y a quand même un endroit à Saumur qui a été baptisé à son nom.
Exactement. C'est-à-dire, ça, c'était la nouvelle il y a quelques mois. À Saumur, il y a aujourd'hui un rond-point qui s'appelle le rond-point Noëlla Rouget.
Et vous disiez qu'il y avait plusieurs élèves qui y avaient assisté, alors qu'ils ne sont plus maintenant en classe avec vous.
Tout à fait, ils sont en terminale. Donc là, le samedi 20 avril, donc un samedi matin, jour de vacances scolaires, j'ai eu quelques d'anciens élèves qui sont aujourd'hui en BTS, MCO, au lycée Carnot-Bertin, qui étaient présents. Et j'ai des élèves de première bac pro, donc aménagement et financement du bâtiment, et finition du bâtiment, pardon, des peintres, qui cette année ont de nouveau travaillé sur Noëlla Rouget, mais dans un autre cadre, et qui eux ont écrit des lettres. Et si vous voulez, je peux vous lire la très belle lettre écrite par Chelsea à Noëlla. Donc voilà. Chère Noëlla, aujourd'hui je prends un moment pour vous rendre hommage et honorer votre mémoire en tant que résistante. Votre bravoure et votre dévouement dans la lutte contre l'oppresseur nazi resteront à jamais gravés dans les valeurs de la liberté. Vous avez fait preuve d'un courage extraordinaire. Votre détermination à combattre l'injustice a inspiré de nombreuses personnes à lutter pour un monde meilleur. À travers vos actions héroïques, vous avez montré que même face à l'adversité la plus sombre, il y a quand même des petits endroits de lumière. Aujourd'hui, en 2024, nous allons vous rendre hommage. En effet, à Saumur, un lycée professionnel du nom de Sadi Carnot Jean Bertin a réussi à faire inaugurer un rond-point en votre mémoire pour ne pas oublier vos gestes héroïques. À vous et votre courage, Chelsea.
C'est magnifique. Honnêtement, on a très envie d'être parmi vos élèves.
Ben, vous venez quand vous voulez assister à mes cours.
Et vous avez des projets évidemment pour l'an prochain ?
Bien sûr. Là, j'ai découvert l'existence de Lise Coquillon, qui est une poétesse méconnue, qui est née au Rosiers-sur-Loire et qui a écrit de magnifiques poèmes qui ne sont absolument pas connus. Donc l'année prochaine, avec ma nouvelle classe de seconde de cette année, seconde commerce, ils seront en première bac pro commerce. La poésie étant au programme, je vais aborder la poésie de Lise Coquillon avec eux travailler. Je vais trouver un projet en lien avec ça.
Bah oui, parce que la poésie, ça peut être un peu aride.
Ça peut.
Pardon Marie, tu voulais dire quelque chose ?
Non, on va peut-être finir.
Oui.
Marina Bossard, merci beaucoup. Bénédicte, merci. Alors, je vais passer un petit peu de temps à approfondir le sujet. Il y a en replay sur France Télévisions une émission qui est intitulée « La résistante et le collabo ». Ça fait partie des émissions « La France en vrai » et c'est accessible donc en replay gratuitement, facilement. Et il y a aussi et surtout, vous l'avez évoqué Marina Bossard plusieurs fois dans l'émission, une biographie très très bien écrite de Brigitte Exchaquet-Monnier et de Éric Monnier. La biographie s'appelle « Noëlla Rouget, la déportée qui a fait gracier son bourreau » et c'est publié aux éditions Talendier. Voilà. Notre émission se finit. Marina Bossard, Bénédicte, merci beaucoup pour
la
préparation.
Marina,
merci beaucoup
fois.
À vous pour l'accueil.
Merci beaucoup pour la préparation de cette émission à toutes les deux. C'est la fin de ce Franche Culture. 30 minutes de culture, tous azimuts en Anjou. Un grand, grand merci aussi à Étienne qui depuis plusieurs mois nous assure la technique. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h et le dimanche à 11h. Et bien sûr, en podcast. Et n'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux sans modération. Très belle semaine à tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.